Bienvenue dans la série Brin de conscience.
Bizarre.
Une plongée dans le creuset alchimique de nos corps, comportements et relations.
Mais pourquoi est-il aussi méchant ?
À la rencontre des ingrédients qui nous animent dans le concret de nos vies, sous un angle biologique, curieux et inspirant.
C'est la question qui nous anime tous.
Brin de conscience est la chronique au service du vivant. C'est parti pour 6 minutes de brin de conscience. Et si l'une des choses qui nous freinait le plus dans la vie était ce que l'on croit être vrai, mais que soit on ne l'a jamais vraiment vérifié, soit que cela a pu être vrai à un moment donné, mais qu'on ne l'a jamais remis en question depuis. Peut-être alors que notre plus grande limite n'est pas à l'extérieur de nous, mais bien dans notre monde intérieur, dans celui de nos convictions les plus ancrées. Bienvenue dans l'univers subtil et parfois tenace des croyances limitantes. Moi, oh non, je ne sais pas chanter. De toute façon, je n'oserai jamais parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas assez... que j'étais trop... Voilà. Toutes ces petites phrases en apparence assez insignifiantes que l'on se dit, que l'on se répète pour expliquer ses difficultés, ses échecs ou simplement justifier à qui veut l'entendre le fait de ne jamais s'être lancé dans quelque chose qui, au fond, nous ferait probablement du bien. Ces croyances se sont construites en même temps que nous, souvent depuis l'enfance, au fil de nos expériences, des injonctions parentales, scolaires, socioculturelles ou autres. Certes, elles ont pu être utiles à un moment donné pour nous épargner de renouveler une expérience peu agréable, nous protéger donc, mais ce sont des sortes de jugements qui se sont enquistés, figés en vérité subjective immuable. Et le cerveau adore ces schémas répétitifs, tout ce qui lui permet de penser pareil et encore pareil, sans trop d'efforts, en mode quasi automatique, économisant ainsi de l'énergie. Une croyance limitante, c'est une sorte d'autoroute neuronale, une pensée bien rodée, rapide et rentable. Elle peut se manifester par une prudence excessive, un refus de s'engager dans une action, ou encore par procrastination, du doute, un syndrome de l'imposteur, du rejet d'une opportunité qui se présenterait pour changer la donne. Le fameux « bah, à quoi bon ?» Alors pourquoi garde-t-on ces croyances, même et surtout quand elles nous limitent ? Parce que la croyance limitante est très souvent associée à un bénéfice caché. Eh bien oui, si je chante faux, il y a de fortes chances pour qu'on me laisse tranquille à la prochaine fête où tout le monde chantera à tue-tête. Et ça, ça me va bien. Et en plus, ça entretient ma croyance. Prenons un autre exemple. Celui de quelqu'un qui aurait la croyance limitante d'être nul en communication. Si cette personne abandonnait sa croyance, elle devrait assurément commencer à s'exprimer, à dire ce qu'elle ressent et pense, à se confronter au regard, voire au désaccord des autres, ce qui pourrait être profondément insécurisant. Tant que la croyance est là, elle sert de justification au fait de ne pas s'exprimer. Elle protège du risque de se retrouver en difficulté, voire embourbée dans sa propre vulnérabilité. Le bénéfice caché est ici l'assurance d'une sécurité émotionnelle. Dernier exemple de croyance limitante.
Les histoires d'amour finissent mal en général.
Avec une telle croyance, la personne concernée évitera de s'engager, se convaincra d'être bien ou mieux seule, et le bénéfice caché sera bien sûr et sans surprise d'éviter la terrible souffrance d'une fin d'histoire d'amour tragique. Les croyances limitantes sont donc comme des cocons que l'on se construit. Inconfortable peut-être, mais offrant un environnement connu, un mode de fonctionnement prévisible et donc sécurisant, comme une petite prison dorée qui s'auto-entretient mais dont au fond on aimerait bien sortir. Alors quoi faire ? D'abord, commencer par observer et repérer ses croyances, les nommer sans les juger. Elles se repèrent facilement à toutes ces petites phrases qui commencent par « je suis trop ou pas assez »,« j'ai toujours ou jamais », « de toute façon, blablabla », et on colle alors une grande vérité invérifiable. Ensuite, se questionner, se demander si cette croyance est vraiment vraie. Ce que l'on serait sans cette croyance, quel est le coût de la garder et surtout, quel bénéfice j'en tire pour l'instant. En voyant ce que cette croyance évite, protège ou légitime, il devient alors plus facile de voir le véritable besoin que l'on comble pour l'instant maladroitement. Et on peut alors commencer à imaginer une alternative. Ce glissement subtil, mais qui change tout, ouvre à une autre voie neuronale, à une autre posture intérieure. Et enfin, on passe à l'action. D'abord pour véritablement nourrir notre besoin et y prendre enfin plaisir. Et aussi parce que c'est en vivant une situation différente que l'on reprogramme lentement mais sûrement le cerveau. Par contre, n'ayons pas peur de trébucher sur ce chemin de déconditionnement. Accordons-nous le fameux droit à l'erreur, si tout n'est pas parfait immédiatement, tout en méditant sur les mots d'Henry Ford à ce sujet. Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Alors, on essaie de leur faire la peau à ces croyances limitantes. À bientôt.
Comment on mange un éléphant?
Qui mange des éléphants?
On le mange.